Alors, dans le Berry, de l'oublier, le département tournait autour de nous, mon grand-père présidait le conseil général et se flattait que les trains l'attendissent à Nancy. Les préfets changeaient, nous étions éternels. Nous n'étions pas bien illustres mais nous remontions loin, très loin, et la société du lieu nous reconnaissait une sorte de magistère moral. Enfin nous nous prenions pour des dieux. L'Olympe, là-bas, s'étendait pour l'essentiel, comme à la ville, sur deux domaines séparés l'un de l'autre par 10 kilomètres au plus. Le premier était le nôtre, à mon grand-père, à ma mère et à moi. On l'appelait Villers. Mes sœurs, qui étaient mariées, y venaient irrégulièrement, flanquées de leurs proches. Tu as sûrement remarqué, Augustin, qu'en règle générale les affections des autres nous sont incompréhensibles. C'était entre Saint-Denis et Palin, un petit château dans le genre italien, posé là peu après 1800, un seul bâtiment rectangulaire de 2 étages et 10 fenêtres, coupé en son milieu par une sorte de colonne de 3 étages et 3 fenêtres, et les croisées du haut, sous le fronton classique, ouvraient au-devant sur une terrasse d'où l'on voyait en contrebas la rivière traverser un petit marécage planté de peupliers. C'était une vraie maison de riche, une maison de plaisance, et même notre homme de peine y était un peu déplacé. Jamais de lourds travaux des champs, mais plutôt de petites expéditions de jardinage pittoresques inspirées de l'Angleterre. Gaston suivait ma mère au potager, le panier à la main, l'air malin, respectueux et dubitatif. Bussy, c'était une autre histoire. Ou plutôt Bussy avait une histoire. Un abbé libertin l'avait fait construire au 18 romain au siècle. Le personnage ne m'a jamais semblé bien digne d'intérêt, il était taillé sur un modèle très courant à l'époque, petit seigneur et mauvaise manière. Il faut porter à son crédit qu'il avait suivi dans l'exil le cardinal de Berny en renonçant aux facilités de la cour. J'ai souvent imaginé l'abbé débarquant à Bourges, mi-hagard, mi-ironique. C'est lui qui a élevé le petit château, qui ressemble plutôt à une folie, à un hôtel particulier égaré en plein champ. L'endroit eut très vite mauvaise réputation dans le pays. L'abbé y organisait des orgies. J'ai connu mes premiers émois en découvrant dans les tiroirs de grand-père un grand cahier de toile rouge qui contenait plusieurs dizaines de feuillets relatant les bruits infâmes et délicieux qui avaient couru alentour. L'abbé avait un sens très sûr du mélange des genres. Il déflorait les paysannes, les fouettait au besoin, pendant que de jeunes paysans bien dotés réjouissaient les plus belles dames de la société des environs, à l'instar des mirebalais de la cour du régent. Tu vois le spectacle, perruque poudrée, jarretière piquée de saphir, un air de clavecin, et les bougres du village se fabriquant des souvenirs, de petites fêtes mais délicieuses, la mesure et le charme français. Un peu debout devant le perron quand même, et ces pauvres filles, que devaient-elles penser, parfois il devait y avoir des drames, de mauvais réveils. Le ciel gris, les bas sur les chevilles et, qui sait, le dégoût de soi-même. Je ne suis pas sûr pourtant que nous puissions encore y comprendre quelque chose, Augustin, nous qui sommes devenus les filles de l'amour unique. Beaucoup de ces orgies commençaient au salon, un petit salon vert d'eau, en rotonde, ouvrant sur le parc par 3 fenêtres. Mon grand-père évoquait ce salon en termes mystérieux et chaque fois, ma mère faisait dévier la conversation. Les paysans du village en parlaient aussi. Lorsque mère sortait de chez nous, les plus vieux lui demandaient, avec une nuance d'inquiétude, et à Bussy le salon, toujours debout, pas de travaux en vue. De loin en loin, Gaston posait les mêmes questions à mon grand-père, qui répondait évasivement. C'est qu'il y avait une légende. Elle venait tout droit de la méfiance des paysans de jadis envers l'abbé, de la médiocre réputation du château en ce temps-là. Le salon avait été refait en 1789, puis juste avant l'enrôlement des Marie-Louise, puis juste avant l'expédition d'Espagne. Du coup les gens du pays s'attendaient, pour peu que l'on en repeignît le plafond, aux pires catastrophes. Je me souviens encore de l'air consterné de Gaston apprenant de ma mère qu'à Bussy, les cousins avaient décidé de restaurer les boiseries du salon. Au fil des générations, l'hostilité était devenue légende. Le Berry, Augustin, est une terre de sortilèges. Pour le comprendre, il faut avoir entendu le vent sur les étangs de la Brenne. Là-bas, on cloue les crapauds à la porte des granges pour conjurer les malédictions. Il y a des Stützors et de vieilles femmes qui ont connu la terreur et guérissent les brûlures par imposition des mains. Certains amos se nommant « Prends garde à toi », alors les légendes tiennent bon. Nous autres, nous nous en moquions naturellement. Je n'étais pas malheureux, j'étais un enfant solitaire, indépendant. Je voulais aller plus loin. Je n'étais jamais en repos, me demandant sans cesse comment était le paysage derrière cette forêt, cette colline, et la ville au-delà, est encore plus loin. Dans nos familles, la vie continuait régulière. Les enfants portaient le même prénom que leurs grands-parents et les semaines, les journées, les heures étaient semblables. Il y avait le mois de Marie, la semaine du marché aux chevaux, les jours anniversaires, les heures de promenade. À 6 heures tous les jours, lisant sur un banc de pierre, je voyais ma mère aller au verger. Et voilà vers quoi je revenais, après l'Égypte. Sur le bateau, j'avais l'impression d'aborder ce passé comme une terre étrangère. Je ne savais pas bien comment m'y comporter. Nos souvenirs nous échappent comme le reste. J'ai souvent envié ton père, Augustin, avec ses manières si réservées, si différentes des miennes, avec ce surinstinct de lui-même, de ce qui lui est nécessaire. J'espère que tu l'as hérité de lui. J'arrivais chez nous par un beau soir d'été. Il régnait dans la petite gare de Dunn une agitation tout à fait inhabituelle. Les voies de garage étaient encombrées de wagons. Plusieurs dizaines de soldats du régiment de ligne cantonné à Dunn coltinaient des ballots et des caisses, et les officiers du train criaient des ordres. J'étais si fort ahuri que je m'assis sur les malles pour contempler le spectacle. Le chef de gare, en chemise tout suant, accourut pour me dire que c'était un grand malheur, bien sûr, mais qu'enfin dans 10 jours nous serions à Berlin. Alors seulement je vis sur les murs les affiches blanches de la mobilisation. Déjà Gaston se saisissait des malles, les hissait dans la charrette, se frayait un chemin au milieu des soldats, des paysans. En passant le portail de Villers, il me dit tout bas, comme s'il craignait d'être entendu et grondé, comme un enfant, « Ça devait arriver, monsieur Nathanael. Ça devait arriver, à Bussy. »